Méta de choc.
Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 20. Sexualité, un monde de croyances. Faire de la métacognition, c'est-à-dire réfléchir à ses propres pensées, les identifier, savoir d'où elles viennent et évaluer leurs qualités, passe notamment par le fait de les confronter à l'état des connaissances. Les deux premiers volets de cette série ont donc planté le décor en énonçant un certain nombre de faits établis et de zones d'ombre autour de la sexualité. Ces informations sont peut-être en conflit avec vos idées ou principes personnels. Elles ont peut-être mis au jour une partie de votre manière de penser, votre propre sexualité, votre place dans le couple ou celle de votre partenaire. C'est un premier pas important. Aujourd'hui, nous poursuivons notre décortiquage avec différents aspects qui peuvent passer sous le radar de nos considérations quotidiennes, mais qui sont eux aussi des révélateurs de notre manière de penser la sexualité et qui l'affectent. Plongeons donc de manière plus directe dans certaines croyances fondatrices de notre société. Chapitre 3. Mon corps, c'est mon corps.
Pour une IVG chirurgicale, très concrètement, il y a une partie du temps consacrée qui dépend en fait du temps administratif de l'endroit où on est. Mmh. Donc, par exemple, moi, ma dernière IVG, c'était en France, dans un service hospitalier. Pour X raisons, j'étais la dernière à passer, donc j'arrivais très tôt le matin, et puis je suis partie vers midi, un truc comme ça.
D'accord.
Une fois que l'IVG, l'aspiration a été faite, c'est un petit tube qu'on introduit par le vagin dans le col de l'utérus, et donc dans l'utérus, et puis par des mouvements, le médecin va aller chercher un petit peu partout dans la cavité utérine pour aspirer ce qu'il y a. Ça dure vraiment, vraiment pas longtemps. Hein. Ça dure 5 minutes, 15 minutes, je sais pas, dans ce coin-là. Et puis après, on reste un petit peu le temps d'observer que les saignements consécutifs à cette aspiration se résorbent, qu'il n'y a pas de problème de saignement, puisque après un avortement, comme à la fin de toute grossesse, il y a un petit risque de saignement abondant. Et ça, c'est quelque chose qui se surveille. Donc on surveille un petit moment, ça va, ça saigne pas trop, ok, go. En sachant qu'effectivement, on va surveiller par la suite, on va dire aux personnes, si jamais vous saignez beaucoup dans les jours qui viennent, on indique souvent quelque chose de l'ordre de changer toutes les 30 minutes de serviette extra-absorbante pendant plus de 2 heures. Ben, faites un petit tour aux urgences gynéco les plus proches de chez vous. Ayez-les en tête, histoire de ne pas paniquer, de vous dire « oh là là, où je vais ?» On dit tout ça avec relativement peu de drame parce qu'en fait, c'est une urgence gynécologique commune qu'on sait traiter. Mais voilà, il faut juste la prendre un petit peu au sérieux parce que c'est pas drôle. Hein. Quand on saigne beaucoup, on peut rapidement se sentir un peu faible. Donc,
Et voilà. ça arrive souvent ou pas?
Non, ça arrive pas très souvent. Mais il faut le savoir. Voilà. Je fais exprès de pas donner des chiffres précis parce qu'à chaque fois que je parle avec des professionnels, ça varie un petit peu. Donc, voilà, juste savoir que ça arrive. Moi, dans ma vie professionnelle, j'en ai entendu des cas, mais globalement, il n'y en a pas tant que ça. Pour une IVG médicamenteuse, c'est un peu différent parce qu'on prend un premier cachet qui n'a pas particulièrement d'effet mesurable. En fait, la plupart des gens ne le sentent pas passer. Et puis ensuite, on prend un cachet qui, pour le coup, va provoquer des contractions et l'expulsion de ce début de grossesse. Et là, on parle de se mobiliser quand même une petite journée.
Ouais.
Avoir une petite journée devant soi, tranquille, parce que à partir de quel moment exactement est-ce que les contractions vont commencer après la prise du comprimé, ça varie. Il y en a pour qui c'est 15 minutes après, c'est réglé très vite, et il y en a pour qui ça prend quelques heures.
Et ça peut être douloureux, ça.
Ben ouais, voilà, mais c'est comme
les
toute
contraction
de l'utérus, c'est un muscle assez puissant, et donc quand il y va, pour certaines personnes, c'est vraiment douloureux, pour d'autres, ça l'est pas tant. Donc c'est super variable et c'est pour ça que ça fait partie de la bientraitance dans l'avortement, c'est vraiment de donner des antidouleurs conséquents à prendre en fonction de ce qui vous prend comme douleur et éventuellement anticiper un peu que ça peut être très douloureux parce que les antidouleurs fonctionnent toujours un petit peu mieux quand on les a pris avant que quand on les prend pendant une très grande douleur. Donc voilà, l'idée c'est de se faire le plus de bien possible. Moi et pas mal de mes collègues, on a coutume de travailler la question de qu'est-ce qu'on fait pour se faire du bien.
Et qu'on n'est pas obligé de souffrir.
Exactement.
Dans cette histoire.
Et donc, j'ai dit plutôt qu'on fait beaucoup d'accueil collectif, on faisait un petit peu un tour de table, vous avez prévu quoi? Ben, moi, en fait, j'ai prévu tel truc, moi, j'ai prévu un autre, et puis on essaie de se renchérir un petit peu, quoi. Pour les filles qui n'étaient pas de Paris, ben, de prévoir un coup de fil à une bonne copine. Parfois, certaines voyaient des amis débarquer. Mmh. Et puis, dans un des centres où j'ai travaillé, les personnes revenaient. Juste pour vérifier que tout s'était bien passé. C'était la pratique de la médecin du centre. Et donc, il y avait un échange entre les personnes qui avaient fait déjà leur avortement par voie médicamenteuse et les personnes qui s'apprêtaient à le faire. Mmh. Alors, on a eu des fous rires comme ça avec une fille, par exemple, qui nous avait dit que, elle, l'endroit où elle était le mieux, c'était sur les toilettes. Parce qu'effectivement, quand on a le ventre qui travaille, on est souvent mieux, naturellement, assis sur les toilettes. Et donc, elle avait d'un côté son copain et de l'autre côté sa meilleure amie. Et ils se faisaient des blagues, et voilà, ils ont passé comme ça, je ne sais pas combien de temps, tous les trois dans les toilettes.
Sympa.
Et ça dédramatisait un peu pour tout le monde. Mmh. Alors évidemment, il y a des personnes pour qui ça ne sera pas aussi rigolo parce que voilà, leur situation personnelle n'est pas telle. Et puis il y a des personnes qui ne vont pas avoir le meilleur setup du monde, hein. Il faut se le dire.
Oui.
Mais elles sont le maximum informées, elles ont notre numéro de téléphone si jamais il y a un truc... Elles savent où se rendre si jamais elles ne se sentent pas bien. Voilà.
Et toi-même, tu avais l'air de dire que donc, les premiers avortements que tu as faits, ça s'est passé relativement simplement, psychologiquement, voilà, tu t'es prête à le faire facilement. Ça a été moins le cas par la suite ?
Bon, personnellement, moi j'ai trouvé ça plus difficile une fois que j'avais des enfants, de me dire que j'avortais. Voilà. J'avais adoré être enceinte, j'avais adoré... mettre au monde mes enfants. Je sais que ça peut avoir l'air fou pour plein de gens. Je dis pas du tout que ça doit être le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça génial. Et donc, ça a été vraiment une décision super rationnelle pour moi de dire, bon, ben, j'en fais pas plus parce qu'on n'a pas les conditions. Je pense que ce qui a été le plus difficile, et ce que les études nous disent aussi, hein, sur ce qui est le plus difficile quand on avorte, c'est de pas avoir de soutien autour de soi. Et moi, j'ai toujours eu de la chance autour de moi, par mes amis, d'avoir du soutien. Mais j'ai trouvé que les paroles des professionnels et les agissements de certains professionnels peuvent être super difficiles à vivre, en fait. Dans mon cas, comme j'avais eu plusieurs avortements, une infirmière qui s'est permis de me dire que vraiment ça faisait beaucoup. J'ai eu envie de lui dire de s'occuper de ses oignons. Voilà,
oui, il y a une sorte de culpabilisation hein, qui persiste
puis je pense qu'on y est très sensible parce qu'on le sait que dans notre société, c'est toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait bien vu parce que la charge de la contraception, elle est à nous. Donc, quand il y a une erreur, ben, quand il y a un problème, c'est à nous de le prendre parce que la sexualité des femmes, c'est encore quelque chose d'un peu tabou. On est toujours un peu pris entre l'image de la maman et de la putain. Hein. Donc, soit on n'a pas très envie et on est très pur, etc. Soit on a envie et dans ce cas-là, ben, on l'a bien cherché d'une certaine façon. Mmh. Et donc, y a un truc qui ne fonctionne pas, en fait. C'est la fameuse injonction contradictoire. Mmh. Tu dois avoir l'air bonne, mais tu dois avoir un petit peu de réticence quand même. Mmh. Et moi, ce que je disais beaucoup dans mes accueils, c'est... quand les personnes me disaient oh là là, j'ai pas réfléchi que là, j'en disais, mais attendez, en rapport sexuel où on serait en train de réfléchir en même temps, pour moi, en fait, il y aurait un petit problème. Enfin, c'est le propre un peu de la chose de se laisser aller et sans parler de toutes les situations où, en fait, la sexualité était un peu contrainte, n'était pas tout à fait consentie, voilà, où on n'avait pas eu l'opportunité de se poser les bonnes questions avant. Donc, stop à la culpabilisation, mais en même temps, ben, je suis une personne dans la société qui est celle dans laquelle on vit. Et donc, moi aussi, j'ai vécu ça. Et c'est une des raisons pour laquelle cette espèce de sororité associative qu'on propose au planning, elle est si importante.
Qu'est-ce qui se passe quand on dépasse le délai ? Quand une personne se présente à vous, adolescente ou plus tard, n'ayant pas vraiment pris des mesures, et puis finalement se disant « non, je ne veux pas de cet enfant, je ne veux pas de ce bébé », mais qu'elle dépasse ce cadre légal. Qu'est-ce qui se passe ?
Le problème en France, et je dirais même qu'il commence un peu avant la fin du cadre légal, c'est que ça devient assez compliqué, au-delà de 12 semaines aménorrhées, de booker un avortement. Hein. Si vous avez découvert votre grossesse un peu tard, si vous avez pris la décision d'avorter un peu tard par rapport au délai, hein, juste par rapport aux délais légaux, ça va commencer à devenir compliqué. Encore une fois, en région parisienne, en général, on arrive à débloquer un truc. Mais la plupart de nos études et puis d'études d'autres organisations montrent qu'en fait, au-delà de 12 semaines aménorrhées, sachant que le délai légal, c'est 14, ça devient vraiment très compliqué de trouver un endroit.
Parce que
parce que déjà, il y a plusieurs rendez-vous. Donc, débloquer plusieurs rendez-vous tout en restant dans la limite légale des 14 semaines, sachant que les hôpitaux fonctionnent à flux tendu de plus en plus pour des raisons économiques, ça devient un peu complexe. Et puis, ben, quand on découvre sa grossesse ou qu'on prend une décision un peu plus tard, ou quand, encore une fois, par le jeu des délais, on est arrivé au-delà, parce qu'on n'a pas trouvé d'endroit où faire une échographie à temps, puis ensuite on est allé voir un médecin qui a éventuellement affirmé qu'il ne faisait pas ça, qu'ensuite bon, il y a eu une sorte d'errance jusqu'à trouver la bonne personne. On peut arriver au-delà des délais. L'option la plus simple, quoique très coûteuse, c'est d'aller à l'étranger. Parce qu'il y a plusieurs pays d'Europe qui pratiquent les avortements bien au-delà de la limite française. Quand on est parisienne, le plus simple, c'est souvent de partir aux Pays-Bas, mais il y a aussi l'Espagne. Et puis en dernier recours, il y a le Royaume-Uni, mais c'est probablement l'endroit le plus cher.
D'accord.
Et ça coûte autour de 1000 euros, voire plus, uniquement pour l'avortement. En plus, les frais de déplacement, etc.
Ouais, ouais.
Alors, aux Pays-Bas, on peut prendre un autobus de nuit depuis la région parisienne et puis arriver le matin et repartir le soir. Enfin, c'est quand même...
Et tout ça se complique dans le cas où la femme fait ça sans l'accord, entre guillemets, de son mari, ou avec de la pression familiale, etc.
Quand elle est trop jeune pour voyager seule, quand elle n'a pas les moyens, parce que c'est vraiment beaucoup d'argent.
Et dans ces cas-là, évidemment, ce n'est pas remboursé, puisque
non.
C'est...
Parce que c'est à l'étranger, c'est comme acte, ce n'est pas prévu en France, donc ce n'est pas remboursable.
Et tu parlais tout à l'heure de l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, qui est donc sur décision du médecin. Est-ce que certains médecins peuvent prendre cette décision-là au-delà donc, du délai et qui permettrait à certaines femmes d'avorter en France de manière légale?
Oui.
Ça arrive,
voilà,
ça.
Ça arrive parce qu'il y a ce fameux critère de détresse psychosociale, parce que finalement, la santé, globalement, c'est plus que simplement comment ça se passe dans votre corps, est-ce que vous risquez quelque chose, c'est aussi ce qui se passe dans la tête, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, oui, on obtient des interruptions médicales de grossesse pour des motifs psychosociaux. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas si facile à obtenir et les critères sont aléatoires. Ça va dépendre un peu des différentes équipes et de ce qu'elles se sentent en capacité de faire, pour quelles raisons. Donc, ça donne des choses qui sont assez crève-cœur parce que, par exemple, dans certains hôpitaux, en cas de viol, l'IMG est plus facilement obtenu. Mais si vous n'avez pas envie de porter plainte pour le viol,
vous n'avez pas de preuve.
Donc, est-ce qu'on prend votre parole ou est-ce qu'on ne la prend pas? Et quid d'une situation de détresse psychosociale certaines personnes vont avoir des jugements moraux, par exemple, pour la personne en situation de prostitution, qui n'a pas de famille, qui n'a pas moyen d'assurer sa subsistance autrement que par cette activité-là, qui a éventuellement des contraintes, puisque une partie des personnes qu'on voit, elles sont encerclées par des réseaux de traite qui ne sont pas nécessairement très, très sympas, à qui elles doivent de l'argent. Ces personnes-là, est-ce qu'elles peuvent obtenir une IMG pour détresse psychosociale, il nous est arrivé de les obtenir et puis d'autres fois non, à quelques semaines d'intervalle. Donc, là, on se retrouve vraiment dans une espèce d'aléa moral complet et nous, on plaide pour sortir de ça, pour allonger les délais. En ce moment, il y a une proposition de loi qui est en navette là et dont on aimerait voir l'aboutissement qui propose d'allonger encore de 2 semaines. Ce qui serait super. Nous, on s'est emparé de ce véhicule-là. On est super en accord avec les députés qui le portent. Ça pourrait être encore plus, mais commençons par là.
Et alors, quelles sont les idées reçues des femmes au sujet de l'IVG? Tu parlais donc du côté un peu tabou, de la honte, du sentiment de culpabilité, de ne pas avoir pris suffisamment bien sa contraception, d'avoir eu un accident, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des idées que les femmes ont sur elles-mêmes ou sur la pratique de l'IVG?
Par exemple, il y a vraiment une forte peur de l'issue tragique. Donc, l'hémorragie est très présente à l'esprit de certaines femmes. Donc,
elles ont peur de mourir, en fait.
Elles ont peur d'en mourir, ouais. L'infertilité aussi, perdre ses capacités de faire des enfants par la suite parce qu'on a avorté, c'est très, 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 très commun.
Est-ce que c'est le cas?
Mais non. Le risque principal pour la fertilité, c'est plutôt les IST, en fait.
Donc
c'est plutôt ça le risque. Non, l'avortement, pas du tout. Mais je pense que ça s'explique par deux façons. D'une part, les avortements à l'ancienne menaient souvent à l'infertilité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui existe dans notre imaginaire collectif qui se transmet par les films, les histoires, etc. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a vraiment cette idée qu'on sera puni. Et ça, c'est assez terrible. Et cette idée qu'on sera puni, elle se traduit aussi par l'idée de la douleur, avec des personnes qui refusent de prendre les antidouleurs, qui disent « moi, j'en prendrai pas parce que je veux sentir le truc. Ah, ouais. Ça m'apprendra d'une certaine façon », ce que je trouve terrible, en fait, comme idée. D'où vraiment tout ce truc que j'ai toujours essayé de porter avec mes collègues, d'en faire un moment agréable, quoi. Moi, je disais toujours, achetez-vous le paquet de Haribo qui vous fait plaisir, quoi. Regardez votre film doudou, faites-vous une journée tranquille, quoi, pour désamorcer ce côté un peu, je vais souffrir et je le mérite un peu. En parler autour de soi, ça a un peu la même fonction, puisqu'il y a tellement de personnes qui l'ont fait. Oui. Alors, évidemment, ce n'est pas une injonction. Hein. Il y a plein de personnes qui me disaient « Ah non, j'en parlerai certainement pas autour de moi. » Mais si on peut, quand on peut, pourquoi pas ? Dans les idées reçues autour de l'avortement, qu'au-delà de un, il y a un problème. Bon, moi, je le disais souvent, je ne suis pas l'exemple type, hein, je veux dire, il y a des raisons pour lesquelles j'ai fait plein d'avortements qui ne sont peut-être pas géniales, mais globalement...
C'est quoi plein d'avortements ?
Moi, j'en ai fait 4. Donc, 3, 2 enfants et 1. Donc, clairement, en fait, mes 3 avortements ne m'ont pas empêché. De faire des gamins et même de retomber enceinte par la suite pour une bête histoire de préservatif qui se trouvait trop loin, d'envie qui nous prenait, alors même que c'est tellement rare d'avoir le temps, l'envie et tout
quand on a des,
quand on a des petits-enfants. Bon, moi, je donnais mon exemple et je sais bien que l'anecdote ne sert pas de preuve, mais non, on le sait. Hein, on a toutes les études, tout le recul.
Oui, on mettra bien sûr en ressources sur le site de Métachoc, comme d'habitude, des liens qui vous permettent justement d'aller vérifier toutes ces données et qui existent.
Voilà. Donc, il y a cette idée-là qu'un avortement, ça va, 2 avortements, bon, ça commence à aller mal. Mais non, mais en fait, on peut toujours choisir quand c'est le bon moment pour soi. Et c'est pas parce que c'est le 3e avortement qu'on doit se dire « Oh là là, mais maintenant, il faut absolument que je mène cette grossesse à terme. » Non, non, il n'y a pas de raison. Peut-être aussi juste préciser qu'il y a des dispositifs qui permettent l'anonymat pour faire une IVG, qui s'appliquent autant aux mineurs qu'aux majeurs, parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne veut pas que ça apparaisse sur nos relevés de sécu. Donc voilà.
D'accord. Et... est-ce que tu dirais que globalement, aujourd'hui, l'IVG est en danger ? Est-ce qu'il y a une tendance à une limitation des libertés des femmes pour l'accès à l'IVG aujourd'hui ? Que ce soit dans les lois ou dans la pratique ? Parce que moi, j'ai souvent entendu dire, oui, on a effectivement des lois, mais finalement, quand il s'agit vraiment de demander une IVG, c'est un peu le parcours du combattant quelquefois.
On a eu un vrai problème sur les 15 dernières années sur les services hospitaliers. Et je pense que c'est un combat qu'il faut vraiment porter parce que l'IVG chirurgicale, elle se pratique à l'hôpital, maintenant en centre de santé, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait des services hospitaliers qui les proposent.
Il faut qu'il y ait des médecins.
Il faut qu'il y ait des médecins qui
acceptent
fassent.
De le faire.
Et puis, l'hôpital public n'est pas en super forme.
On a pu s'en apercevoir.
Voilà. Et donc, il y a un travail de sanctuarisation de l'IVG à faire de ce côté-là. Et puis, en planning, on pousse pour un meilleur accès, une meilleure information, etc. Et on n'est pas les seuls à dire qu'il faut vraiment toujours travailler à l'amélioration de l'accès à l'IVG. J'ai parlé tout à l'heure du projet de loi qui est porté par Alban Gaillot et par d'autres députés pour améliorer l'accès. Mais il y a aussi un rapport de la délégation droits des femmes de l'Assemblée nationale qui a listé aussi tout un tas de recommandations faites pour améliorer. Donc oui,
ça c'est récent.
C'est très récent. Donc oui, il y a toujours à lutter. Et je dirais aussi, et on en parlera sans doute plus tard, que les gens qui s'opposent à l'IVG sont assez subtils dans leur méthode. Donc, ce n'est pas toujours facile de savoir où se trouve le problème. Mais en tout cas, nous, on constate qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas ou qui arrivent à un prix assez compliqué. Et pour nous, c'est essentiel que les personnes aient accès facilement, simplement, et avec le moins possible de complications administratives, etc.
Et les associations tiennent à jour une liste des praticiens qui proposent l'IVG.
Oui,
à laquelle on peut se référer, donc assez
nous,
simplement.
En fait, on a le numéro vert national qui fonctionne très bien pour ça, c'est le 0800 08 11 11. On tient un annuaire. Il y a aussi d'autres organisations qui ont des annuaires qui sont en ligne, donc il y a vraiment moyen de trouver.
Donc globalement, actuellement, la situation est plutôt positive et va vers une démocratisation, une simplification de ces démarches.
Je ne dirais pas que la situation est plutôt positive. Il y a des aspects super positifs en France, comme notamment la prise en charge à 100%. Il y a d'autres aspects moins bien. Je parlais des délais qui sont un peu courtois en France. Et puis la situation des personnes dans les déserts médicaux qui est vraiment problématique. Et on ne parle pas que de ruralité, évidemment. La grande banlieue ici en région parisienne, par certaines banlieues très proches de Paris, sont très, très mal desservies. Donc voilà, là, en fait, on a toujours un problème. Puis on a vu qu'on pouvait faire mieux pour l'accès. On a maintenant l'allongement pour l'IVG médicamenteuse passé à 9 semaines en ville, donc à l'extérieur de l'hôpital. Donc ça, c'est super. Mais on a aussi expérimenté la téléconsultation pendant la période Covid. Ouais, ouais. Et cette mesure-là n'a pas été reconduite. Et ben, ça serait super, en fait. La téléconsultation pour l'IVG, ça permettrait vraiment à plusieurs personnes de simplifier leur parcours. Ça fait partie de nos nombreuses revendications sur le thème, évidemment.
Oui, le confinement a permis un certain assouplissement, un rallongement des délais, etc.
Ben, on s'est rendu compte pendant le confinement qu'on pouvait faire mieux en termes d'accès, que c'était super important. Le planning a fait une grosse campagne pour rappeler que l'IVG était toujours possible, que c'était parmi les soins prioritaires et que ça constitue un soin d'urgence. Mais
face au Covid, ça ne devait pas être évident. Les places à l'hôpital pour ce genre de choses, ça a dû être un peu compliqué de les avoir.
Oui, mais je pense qu'il y a une grosse mobilisation à tous les points de vue. Les centres d'orthogénie dans les hôpitaux, les centres de planification, c'était assez impressionnant comment tout le monde s'est mobilisé là-dessus. Et on a obtenu des choses vraiment intéressantes. Énormément de bonne volonté. Maintenant, la question, c'est de dire, ben voilà, si on est capable de le faire pendant la période Covid, est-ce qu'on ne peut pas continuer? Voilà. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on accepte que des personnes soient exclues de l'accès à l'IVG? Voilà.
On connaît bien les résistances religieuses vis-à-vis de l'IVG, notamment en Amérique du Nord, qui sont quand même super puissantes, super spectaculaires. Est-ce qu'on a ce même type d'action en France? Et surtout, est-ce qu'elles ont une portée? Est-ce que vraiment il y a une dissuasion efficace, entre guillemets, de la part de ces organisations religieuses vis-à-vis des femmes qui pensent faire une IVG?
Ben, on a eu ces dernières années vraiment maille à partir avec des personnes qui se font passer pour des services d'information neutres et qui font de la désinformation. Et je ne crois pas qu'elles aient un effet spectaculaire parce que je pense que les personnes qui veulent avorter, elles trouvent le moyen. Mais je pense qu'elles contribuent à faire de l'expérience, pour certaines personnes, une expérience douloureuse.
Culpabilisante.
Voilà, culpabilisante. On a beaucoup de retours de personnes qui appellent des lignes soi-disant d'information et qui finalement se retrouvent à être harcelées téléphoniquement. Oui. On leur prédit grand malheur si elles poursuivent leur démarche.
Oui, qu'elles vont tomber en dépression, par exemple, après une IVG.
Qu'elles sont surtout en train de santé par la suite.
Oui. Et puis aussi qu'elles tuent un être humain, puisque c'est souvent des associations catholiques qui font ça. Voilà. Et effectivement, l'Église catholique considère que la vie humaine commence dès la conception.
On a aussi des opposants physiques qu'on ne voit pas, mais qui viennent, par exemple, répandre du faux sang dans des centres. Ou là, plus récemment, on a eu des collages d'autocollants sur les portes de plusieurs centres à Nantes et à Paris. Ces personnes-là, effectivement, revendiquent la vie à partir de la conception.
Pro-vie.
Voilà. Nous, on préfère les appeler anti-choix, puisqu'on refuse d'être catalogué anti-vie. Ça ne nous va pas très bien comme étiquette. Je pense que c'est compliqué de savoir exactement quelle influence ces personnes-là ont, si ce n'est qu'on voit quand même concrètement certaines réticences au niveau des personnes qui nous gouvernent, des politiques, à aller aussi loin que nous on voudrait sur la question de l'IVG. Et qu'on sait qu'il y a des efforts de plaidoyer de la part de ces organisations auxquelles on a assez peu accès. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas dites très ouvertement. On n'a pas de débat avec ces personnes-là. Ces fameux autocollants, ils ne sont pas signés par quelqu'un, en fait. On ne sait pas qui les pose.
Mais il y a un financement derrière,
voilà,
en tout cas.
Et il y a de l'argent derrière. Après, il y a un super boulot qui est fait au niveau européen, notamment par l'Association des parlementaires européens, sur qui sont les personnes qui font ce lobby et sur les réseaux transnationaux d'organisations religieuses qui s'opposent à l'avortement, leurs techniques, leurs documents, etc. Et là, on a vraiment des données plus claires. Mais c'est vrai qu'en France, on a du mal à voir qui exactement sont les personnes qui font ce travail de plaidoyer et ce travail de pression aussi.
Oui, alors l'Église catholique, pour elle, ça représente un infanticide, parce que ça s'oppose au sixième commandement des tables de la loi. Par contre, dans le judaïsme et l'islam, c'est intéressant de le savoir, c'est pas la même chose, parce que il date en fait la création factuelle d'un être humain, donc l'arrivée de l'âme, hein, l'apport d'une âme par Dieu, à partir du 40e jour de gestation. Donc dans ces croyances-là, on gère les choses un peu différemment.
Alors c'est super variable, parce qu'effectivement, je me souviens de ma surprise le jour où j'ai vu arriver dans un de nos centres une personne très clairement extrêmement croyante dans l'islam, musulmane, vraiment très très couverte, etc., qui venait pour un avortement. Et on a eu toute une discussion, elle m'a expliqué qu'elle avait consulté plusieurs imams et qu'elle était vraiment complètement dans les clous. C'était une fille qui venait de se mariée, qui avait envie de poursuivre ses études un peu avant de faire des enfants. Voilà, rien de plus classique, quoi. Simplement, voilà, sa tenue m'a un peu étonnée. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui ne le savent pas au sein de leur famille. On ne leur a pas dit, on ne leur a pas donné cette liberté. Et c'est bien le signe qu'en fait, l'avortement, ça va un petit peu au-delà de préceptes voilà, écrits. C'est aussi...
culturel.
Culturel, et toute l'idée qu'on a de la sexualité vient compliquer les choses. Qu'on soit croyante ou pas, et dans une religion qui le permet ou pas.
Et d'ailleurs, on peut observer un peu cette dichotomie, même chez les croyants catholiques, parce qu'il y a eu cette fameuse encyclique en 1968 qui venait un peu à contre-courant de Vatican II, hein, qui est de la même époque, qui s'appelait « Humanae Vitae », donc « La vie humaine », promulguée par le pape Paul VI, et qui affirmait le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, c'est-à-dire union et procréation. Donc, ça a vraiment mis un pavé dans la mare, mais en même temps, alors que ça venait du pape, il y a énormément de catholiques qui ne se retrouvent pas du tout dans ces mots-là. Et pourtant, en plus, ça a été reconfirmé en 2008, à l'occasion du 40e anniversaire de cette fameuse encyclique, par le pape Benoît XVI, qui réitère la condamnation même de la contraception. Donc finalement, ce n'est pas si clair que ça. Mais quand tu as reçu des personnes au planning, qu'est-ce que tu as pu observer, justement, des croyances, de l'impact des croyances parmi les personnes qui venaient, que ce soit sur l'IVG, la contraception ou toute autre chose?
Ce qu'on observe, c'est que les personnes, elles négocient. Elles négocient entre leurs circonstances personnelles, l'amour qu'elles portent à leur famille et le respect qu'elles ont des croyances familiales ou personnelles. Et c'est une négociation. C'est pas un truc tranché, noir ou blanc.
Ça, c'est déjà plutôt positif.
Voilà. Ça, c'est plutôt positif. Il m'est arrivé une seule fois de voir quelqu'un vraiment en grande peine sur un choix d'avortement parce que, adhérant à la lettre, à la parole catholique, même du pape actuel. Et là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle, mais ça m'a hanté un certain temps, je dois dire. Parce que c'était vraiment, pour le coup, la négociation entre ses circonstances personnelles qui était très, 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 très difficile. Et une grossesse, elle n'arrivait pas à trancher et je ne voyais pas très bien comment elle s'en tirerait. Mais la plupart des gens négocient et en fait, cette négociation, elle peut donner lieu dans nos accueils en groupe, par exemple, à des trucs assez émouvants ou par exemple à une croyante juive qui parle avec une croyante musulmane et qui disent, bon voilà, nous on est toutes les deux là pour cet avortement, c'est pas facile pour nous, dans nos familles, c'est pas quelque chose dont on peut nécessairement parler, mais elles se retrouvent et elles se soutiennent. Mais les croyances, effectivement, on les écoute et on n'a pas grand-chose à en dire. Si ce n'est que là où elles se traduisent éventuellement dans des fausses croyances sur la biologie ou sur les conséquences, on peut dire que voilà, ne vous inquiétez pas, là pour le coup, ça ira. Il y a la fameuse question de la virginité aussi qui vient jouer un petit peu dans tous les thèmes qu'on aborde. Mais pour les personnes qui sont croyantes en particulier, bien que malheureusement la question de la virginité déborde largement des croyances monothéistes.
Oui, et comme tu le disais, ces associations par exemple catholiques, elles diffusent des informations qui sont fausses. Donc, ils vont à l'encontre de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission. Et ça, c'est super important de rétablir les connaissances telles qu'elles sont et, et pas...
Après, moi, je pense que ça doit être compliqué pour quelqu'un qui est très croyant et qui nous écouterait. Je ne sais pas si ça existe. Voilà.
Si, bien sûr, il y a des croyants qui écoutent Métachoc.
Ce qui est compliqué, c'est que je sais que c'est ce que disent aussi les organisations qui s'opposent à nous. C'est que nous, on ne donne pas le choix et qu'on donne des fausses informations.
Et donc, qui croire ?
Alors, qui croire ? Ben, moi, je vous promets qu'on fait vraiment gaffe à donner les meilleures informations qui soient et que si, effectivement, il y a quelque chose qui est souvent dit sur le planning par les opposantes et opposants au planning qui est qu'on banaliserait l'avortement, on banalise quand c'est banal et on écoute quand c'est pas banal, bien sûr. Enfin, les gens font comme ils peuvent et simplement, on va pas rajouter à une éventuelle angoisse personnelle des angoisses sur la santé qui n'ont pas lieu d'être, par exemple, ou des angoisses sur le déroulement qui n'ont pas lieu d'être.
Et d'ailleurs, ces croyances-là, elles ne sont pas que liées à la religion. On disait que c'est lié à la culture aussi, mais par exemple, moi qui parle beaucoup du New Age, des croyances New Age, de la spiritualité contemporaine, je parlais récemment dans une émission des Tentes Rouges, ces fameux rassemblements, ces cercles de sororité où les femmes échangent entre elles. Et là, il y a énormément de fausses informations qui circulent. Donc là encore, je pense que voilà, c'est important de se renseigner et d'aller voir les sources. En tout cas, de ne pas mélanger spiritualité, religion et fait avéré. Et là, on touche au médical beaucoup hein, dans vos activités au planning. Donc, ça me semble vraiment important de dissocier les deux. Parce que sinon, on peut vraiment partir sur des idées fausses qui peuvent être préjudiciables. Ça peut nous amener à prendre de mauvaises décisions pour soi, voire de se mettre en danger.
Oui, complètement.
Et ça, tu rencontres aussi des personnes qui ont des croyances spirituelles comme ça?
Ben, c'est-à-dire que là où on a senti le New Age un peu passer, c'est sur la question de la pilule contraceptive. Moins sur l'IVG. Sur la pilule contraceptive, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de freiner l'ordre naturel de son corps, etc. Moi, ce que j'ai observé, par exemple, chez les personnes qui vont plus du côté du New Age, etc., c'est qu'il y a une tendance à aller plutôt vers les méthodes d'observation du corps. La seule chose sur laquelle... je vais dire un truc horrible, mais je rejoins un peu Elisabeth Badinter, qui a écrit sur ces questions-là d'un point de vue féministe très à l'ancienne, mais qui a juste fait une mise en garde que j'ai trouvée intéressante, c'est faire gaffe au boulot que ça nous demande, en fait. Donc, quand on souhaite, par exemple, faire uniquement de l'observation corporelle, ben, ça demande beaucoup de travail. Hein. Ça demande de prendre sa température tous les matins, ça demande d'observer sa glaire et ça demande une maîtrise qu'on peut souhaiter avoir. Hein. J'ai vraiment rien du tout contre, mais ça prend beaucoup d'énergie. Et on peut légitimement avoir envie de mettre cette énergie-là ailleurs et on peut trouver d'autres solutions éventuellement. Voilà, juste faire gaffe à ça. Et je pense que c'est quelque chose que tu as pu aussi voir avec Béatrice Camerer quand vous avez parlé d'éducation bienveillante. Hein. Il y a plein de choses qui sont super, mais il y a un moment, en fait, quand on s'épuise à essayer de toujours faire du mieux qu'on peut, etc., il y a un moment, il faut aussi... replacer les choses dans son économie personnelle, on peut avoir envie de plus de simplicité. Voilà.
Et c'est horrible alors de citer Elisabeth Badinter ?
Elisabeth Badinter, elle s'est vraiment positionnée contre l'espèce d'entrée de l'écologie et de la bienveillance dans la pensée de la parentalité d'une façon extrêmement caricaturale. Moi, j'étais une jeune mère à l'époque où elle a fait ça. Et c'était pas super agréable de se prendre ces pontifications, d'autant plus que les intentions des personnes qui allaitaient longtemps ou qui lavaient les couches de leur bébé étaient franchement de très très bonnes intentions.
Elle s'y opposait donc.
Elle s'y opposait et elle en faisait un truc que des petites influences psychanalytiques un peu dégueu, du genre le bébé qui mange la mère, des trucs comme ça. Franchement, on s'en serait passé. Et en plus, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il fallait vraiment une solide dose de bonne volonté pour entendre un message derrière qui n'était pas inintéressant. Mais Elisabeth Badinter, moi, je recommande la lecture d'un portrait qui est sorti dans Le Monde et qui montre bien qu'en fait, ses sources sont scientifiquement pas très solides et qu'il faut faire attention à ce qu'elle avance.
Et quel est l'impact des croyances sur les personnes qui présentent des signes de violence conjugale ? Soit qu'elles viennent spontanément vous en parler, soit vous les détectez chez elles ?
Alors, déjà, en fait, je pense que c'est important de dire qu'au planning, on peut parler des questions de violence de façon très naturelle sur à peu près n'importe quel accueil. Quand on regarde la première intention des personnes qui viennent chez nous, c'est pas très souvent les violences. Mais en fait, on en parle parce que c'est une réalité de la vie des femmes, donc on en parle en dédramatisant un peu le fait que si vous voulez l'aborder, vous pouvez. C'est d'abord un enfermement mental, les violences conjugales, et donc toute violence va d'abord installer des croyances dans la tête des personnes qu'elles ne peuvent pas se fier en fait à ce qu'elles ressentent, qu'elles valent moins qu'elles méritent ce qu'elles ont. Puis cet enfermement, il passe par le fait de mettre à distance les personnes qui peuvent remettre en cause ces croyances-là. Mmh. Donc, un isolement de la famille, des amis. Je ne m'entends pas bien avec eux, donc il ne faut pas les voir. Tiens, on va déménager pour mon travail à des centaines de kilomètres. Et puis, si tu arrêtais de travailler, tu sais, pour les enfants, ça serait super. Et donc, la vie se referme sur la personne.
Oui, rappelons quand même que la violence conjugale, c'est justement spécifiquement dans sa définition la domination d'une personne sur une autre. Donc, la violence conjugale peut être exercée d'un homme sur une femme le plus souvent, en tout cas pour les actes physiques violents, mais également d'une femme sur un homme, et ça on l'observe aussi dans les violences psychologiques, comme tu le décris, d'enfermement et de contrôle de la personne, à bien dissocier des conflits conjugaux qui peuvent amener aussi à des actes violents et graves, mais qui ne sont pas de l'ordre de la domination, où les deux personnes peuvent être sur un terrain d'égalité. Et effectivement, cette question psychologique de domination, c'est ça qui est en fait le cœur de la violence conjugale.
Oui, c'est ça là où je te reprendrais, c'est qu'en fait, toute forme de violence conjugale est d'abord une violence psychologique.
Voilà.
Donc l'idée que les femmes exerceraient la violence psychologique et les hommes la violence physique, non. En fait, toute forme de violence conjugale, c'est une violence psychologique d'abord et avant tout. Et parce qu'on vit dans une société où on déprécie en tant que groupe les femmes et qu'on apprend aux hommes que globalement leur valeur vient du fait de dominer, toutes les formes de violence conjugale sont plus souvent exercées par les hommes, ça c'est absolument clair. Alors évidemment, il y a des personnes pour dire que voilà, les hommes en parlent moins parce que c'est plus tabou. Oui, bon, dans l'ensemble quand même, même avec ce différentiel, puisque les enquêtes permettent de parler à des personnes voilà, qui ne sont pas nécessairement allées porter plainte, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui rapportent de la violence conjugale que d'hommes.
Tout à fait. Et là, je renvoie tout un chacun, toute une chacune à l'émission que j'ai faite avec Laurent Puech et au live aussi qu'on a fait récemment d'actualisation, puisque cette émission date d'il y a 2 ans. Et sur la définition des violences conjugales, les données qu'on a à notre disposition aujourd'hui et qui justement permettent d'évaluer la répartition de ces violences, quel type de violence conjugale chez les hommes, chez les femmes, etc. etc. C'est vraiment très intéressant et ça dépasse largement les a priori qu'on peut avoir.
Donc on va toujours placer un peu cette question-là des violences en disant voilà, on peut en parler si c'est un sujet qui vous concerne ou dont vous avez envie de parler. Et donc on ouvre un peu de la même façon que j'ai pu mettre un autocollant sur mon téléphone, on ouvre à la possibilité d'en parler et effectivement on en parle finalement assez souvent. On est attentive aux questions de contraintes, toutes les petites contraintes dont on peut voir que mais il faut que je rentre à la maison pour telle heure ou bien il faut que voilà, toutes ces questions-là en fait ça va un petit peu venir nourrir nos échanges. Et ce qui fonctionne toujours le mieux sur tous ces sujets-là, c'est de mettre les choses en commun et de montrer que on est toutes un peu au courant que ça arrive et qu'on connaît tout un peu quelqu'un ou ça nous est arrivé, etc. Ce qui est probablement aussi très commun, c'est que dans le cas où la personne elle a été victime, elle se blâme de ne pas être sortie. Il y a toute cette culpabilité de « pourquoi ça m'arrive à moi ?» ça doit m'arriver pour une raison. Et donc tout ça, ça se discute. Et une chose qu'on dit souvent, c'est que ça prend souvent plusieurs fois, plusieurs essais avant de sortir de l'emprise, qui est finalement un enfermement mental comme un autre. C'est un peu difficile de construire une vie à l'extérieur de cet enfermement-là, sans parler des contraintes très concrètes, qui sont les différentiels de salaire, la difficulté à trouver un emploi, les contraintes familiales, s'occuper de la famille, etc.
Oui, l'emprise mentale fait qu'on intériorise cette violence, on l'accepte, on la rationalise, c'est-à-dire on lui donne de bonnes raisons d'exister, etc., etc. Et ça peut paraître, vu de l'extérieur, simple, de dire si ton mari te bat ou si ton mari t'empêche de circuler librement, tu n'as qu'à le quitter. En réalité, même outre les questions matérielles, l'emprise mentale fait que on perd à un moment donné la capacité à se poser les bonnes questions et à prendre des décisions qui peuvent assurer notre survie psychique et physique. Ça, il ne faut pas le sous-estimer.
On n'est pas nécessairement l'association spécialisée du département où on est. On travaille avec énormément d'associations partenaires.
Mais avec des assistantes sociales aussi.
Avec des assistantes sociales, avec les services de justice éventuellement. Mais ce qu'on a, c'est vraiment cette espèce de capacité d'en parler avec la toute venante, le tout venant. On n'a pas besoin d'avoir identifié ça comme étant un problème chez nous pour en parler. Parce que voilà, la question sera amenée, sera abordée. Ben, aujourd'hui, on sait que la bonne pratique chez les sages-femmes et les médecins, c'est toujours de poser la question, puisque ça a un impact très important sur la santé. Donc évidemment, chez nous, les médecins le font.
C'est-à-dire, ils posent clairement la question, est-ce que vous êtes victime de violence ?
Est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez été victime de violence de la part d'un partenaire ou de la part d'un membre de votre famille ? Ça, c'est la bonne pratique prônée aujourd'hui par la mission interministérielle sur la prévention des violences. Il y a des endroits où c'est fait plus qu'ailleurs, mais au planning familial, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire.
Il y a un thème qui est extrêmement exploré ces temps-ci par les mouvements féministes, c'est l'excision. Comment ça se passe au planning ? Comment les femmes sont-elles accueillies ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous êtes attentive ou est-ce que vous attendez que les personnes vous en parlent ? Comment ça se passe ?
L'excision, c'est un sujet auquel moi j'ai été confrontée en premier parce que à l'association de Paris, des personnes venaient pour avoir des certificats qui montraient qu'elles avaient été victimes d'excision et que leur enfant de sexe féminin n'avait pas été excisé. Et tout ça se faisait dans le cadre d'une demande d'asile en France. Donc l'idée, c'était qu'on pouvait renforcer notre demande d'asile en disant que ça protégerait notre enfant.
Oui.
On reprenait un peu la balle au bon pour permettre de pouvoir parler aussi, d'orienter les personnes, de donner plus d'informations sur le droit. Et la démarche a été changée et c'est à d'autres personnes de s'occuper de ce fameux certificat. Mais ce que j'ai retenu de toute cette histoire, c'est l'énorme variété en fait, des expériences des femmes qui ont été victimes d'excisions.
Oui, sachant qu'en plus des excisions, il y en a de différentes sortes, plus ou moins graves d'un point de vue médical et qui peuvent plus ou moins entraîner la mort dans la pratique. Ça va de l'ablation des lèvres à carrément l'extraction du clitoris, etc. etc.
Donc c'est... Ouais. Et puis c'est très différent aussi en fonction de ses faits, à quel âge, quelle expérience on a eu de l'acte lui-même, etc. Mais tout ça pour dire que ce qu'on a en France qui est pas mal, en fait, c'est quand même pas mal de centres qui permettent d'aider les femmes à vivre avec ce qu'elles ont. Il y a un effort de plus en plus important de la part des femmes elles-mêmes qui ont été victimes d'excision, d'être entendues dans le sens de « aidez-moi à vivre ma vie aujourd'hui avec ce que j'ai vécu ». Puisque il y a beaucoup de femmes en France qui viennent de pays où voilà, l'excision est une pratique qui est encore malheureusement trop répandue. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une femme victime et qu'est-ce qu'on peut nous proposer comme aide ? On travaille notamment avec une association qui s'appelle Baadon, qui vise justement à avoir le maximum d'informations données de pair à pair sur comment ça s'est passé et comment on peut faire pour vivre avec et quelles sont les possibilités de, j'aime pas tellement le terme réparation, mais en tout cas d'amélioration de la qualité de vie et de la sexualité une fois que ça a été fait.
Alors ça peut passer par des interventions chirurgicales, il y a des médecins qui sont spécialisés dans ce domaine-là, de reconstruction entre guillemets, des parties génitales, et puis bien sûr toute la partie psychologique et sociale d'intégration de la personne et de vivre à partir de ça une vie normale. Donc est-ce qu'au planning vous avez un discours particulier par rapport à ça ? Comment vous accueillez ces personnes ?
Ben, on entend déjà ce qu'elles souhaitent. Je dirais que le plus souvent, ce que les personnes souhaitent, c'est avoir accès à des médecins qui connaissent bien et qui peuvent répondre à leurs questions, avoir accès à des psychologues qui connaissent bien et qui peuvent répondre à leurs questions, voir aussi parfois entendre leur détresse à propos du processus légal qui amène à la reconnaissance de cette violence qu'elles ont vécue, à la protection de leur propre enfant. C'est un processus qui est complexe et qu'on ne simplifie pas, et je crois que c'est à dessein qu'on ne le simplifie pas, et qui mène aussi les femmes à avoir à répéter beaucoup ce qu'elles ont vécu, ce qui n'est pas nécessairement l'objectif en fait dans la vie. On peut simplement l'écrire une fois et puis ne plus avoir à le redire avec la bonne intonation qui fait qu'on est cru, qu'on est comprise, etc. Donc ça, c'est une grande partie de ce qu'on va entendre sur le sujet. Et puis voilà. Et au planning, on s'est rendu compte qu'il y avait une population qui avait peut-être du mal à venir vers nous, même si on avait un peu cette étiquette généraliste de toutes les questions de sexualité. C'était les personnes qui étaient en transition de genre, soit voilà, nées femmes, assignées femmes, qui se sentent hommes et qui souhaitent avoir accès aux traitements médicamenteux qui leur permettent d'accéder au corps qui leur correspond, soit le contraire, assignées hommes et qui se sentent, souhaitent être insérée dans la société en tant que femme. Et pour ces personnes-là, on n'avait pas nécessairement les bons mots, les bonnes pratiques, les bonnes connaissances pour les accompagner. Et donc, on a mis en place un guide déjà de bonnes pratiques d'accueil pour parler aux personnes d'une façon qui respecte la façon dont elles se sentent, leurs ressentis. Et il y a des associations qui sont aussi en train d'aller plus loin avec une activité médicale qui permet à certaines personnes de venir et vraiment d'avoir les consultations nécessaires, les traitements nécessaires pour amorcer une transition, c'est-à-dire avoir accès aux médicaments, aux hormones qui permettent de changer le corps et donc d'accéder à leur souhait d'aller vers un changement physique, éventuellement d'état civil également. Je dois dire que moi-même, je ne suis pas une personne super bien informée et que je ne suis plus sur le terrain depuis un certain temps. Et même si je sais vers qui orienter, je n'ai pas toujours nécessairement les bons mots. Pour autant, ça me paraît super important de le dire, ça déjà, que je ne sais peut-être pas nécessairement comment faire, mais que je vais faire de mon mieux, d'avoir des personnes vers qui je peux orienter. Et puis de dire aussi, peut-être aujourd'hui, puisque je parle quand même aussi au nom du planning, que le planning se positionne pour l'autodétermination des personnes. Puisqu'aujourd'hui, pour énormément de personnes en voie de transition, de personnes trans, il faut un examen psychiatrique, un suivi psychiatrique pour obtenir le précieux sésame du changement d'état civil. Nous, on dit, ben non, en fait, si la personne, elle le demande, elle a droit à l'accompagnement respectueux de sa demande et elle n'a pas besoin d'une attestation de la part d'une personne qui évaluerait sa santé mentale.
En fait, les personnes, si je comprends bien par rapport à ce que tu dis, viennent plutôt vers vous une fois qu'elles ont pris leur décision ou qu'elles sont relativement claires dans le chemin qu'elles veulent faire pour cette transition. Ou est-ce que vous avez aussi des personnes qui viennent à vous pour en parler, pour échanger ?
Dans mon expérience à moi, parce que je n'ai pas travaillé dans des associations qui étaient identifiées comme étant un lieu ressource, malheureusement, hein, donc c'était un peu compliqué, je pense, de savoir qu'on pouvait venir nous voir. Mais en tout cas, dans mon expérience, les personnes qui venaient nous voir étaient des personnes assez jeunes, qui avaient déjà en tête que c'était quelque chose qui était une réalité pour elles. Par exemple, j'ai à l'esprit une personne toute jeunette qui était venue avec sa meilleure amie et elle était une femme trans, mais elle n'avait pas encore pris le chemin d'aller voir une médecin pour avoir accès aux hormones. Elle n'avait pas, je pense, parlé à ses parents. Enfin, il y avait tout un travail à faire. Donc, nous, on avait les bons contacts d'associations où elle pouvait aller voir. On a cherché un peu pour voir des médecins friendly sur une liste qu'on connaît et que beaucoup de personnes connaissent, qui est Gynenco, qui permet, par un système de tag très simple, d'orienter. Donc, on a pu faire ça. Et puis déjà, en fait, juste de l'accueillir en disant que c'était parfaitement OK, normal, légitime, c'était déjà bien. Je pense qu'on a fait le minimum et on pourrait faire mieux. Et on fait de mieux en mieux. Là, on a fait récemment, en mars, une formation nationale sur l'accueil des personnes trans. Déjà, voilà, pour ces questions de langage, de comprendre les réalités, à quoi elles font face comme discrimination, qu'est-ce qui est difficile à vivre, etc. Se mettre un peu dans la peau d'eux, pour être plus respectueuse, pour être un peu au courant. À savoir aussi que le planning, comme on a une activité politique plus largement, par exemple, là récemment, sur la loi bioéthique qui ouvrait la PMA, donc la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux femmes lesbiennes, on a plaidé aux côtés d'associations de personnes concernées, aux côtés d'associations LGBTQI+, pour l'inclusion des personnes trans aussi dans les parcours de procréation médicalement assistée, qu'on est, comme toutes nos associations partenaires, vraiment choquées en fait que ça ne soit pas accordé, la procréation médicalement assistée aux personnes trans, parce que pourquoi pas, en fait. Voilà, on essaie de se positionner au maximum comme étant alliés, en sachant bien sûr que c'est peut-être pas au planning de porter toutes ces causes, mais en tout cas de se positionner fortement et de façon claire aux côtés des associations de personnes concernées.
Et là, on voit bien qu'évidemment, avec ce type de sujet, on entre dans des débats éthiques, des débats sociaux et moraux même pour certaines personnes. Ça devient des questions brûlantes en fait et très complexes.
Et pour nous, c'est des questions de liberté, d'égalité et de sexualité. Et donc, évidemment que notre discours ne peut pas se limiter sur ces questions-là à uniquement traiter des problématiques des femmes hétéros ou des femmes globalement, puisque vraiment, par exemple, sur ces thématiques d'avortement, de contraception qu'on vient d'aborder, bah, les hommes trans peuvent être tout à fait concernés, les personnes non binaires tout autant, etc. Donc, il y a une extension, en fait, naturelle de nos plaidoyers. Et puis, on parlera plus tard aussi de tout ce qu'on va faire au niveau de l'éducation à la vie affective et sexuelle, puisque c'est là où tout commence, en fait, hein.
Et bien justement, c'est de ça dont on va parler maintenant, parce que ça, c'est vraiment le deuxième grand pan de l'activité du planning à côté de l'accompagnement des femmes, l'éducation auprès des jeunes. Dans quelles circonstances déjà ? Est-ce que vous allez dans les écoles ? Est-ce que ce sont des choses qui se passent dans vos locaux ? Comment ça se passe ?
Alors, des questions d'éducation, on les aborde avec tout public. Donc, on a une partie de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle qui va se faire avec des jeunes, avec des mineurs, qui représentent, si on prend tous nos publics réunis, hein, donc les personnes qui viennent dans nos centres et les personnes qu'on va voir, à peu près 40% des personnes qu'on voit. Les jeunes, on les voit beaucoup dans les collèges, les lycées, un peu dans les écoles primaires. Et puis, lors de ces séances, on voit aussi beaucoup de personnes dans des institutions hors cadre éducatif. Et là, je parle des mineurs et des majeurs. On va voir des personnes en situation de handicap et leurs proches. On va voir des personnes qui sont dans des lieux d'accueil pour personnes victimes de violences ou personnes très précaires. On va voir des personnes détenues. Certaines de nos associations travaillent avec les auteurs de violences.
D'accord.
On voit aussi des personnes migrantes, notamment les mineurs isolés et autres personnes en parcours migratoire, des jeunes en insertion dans les missions locales, par exemple. Et puis parfois aussi dans les permanences de nos associations partenaires. Donc on voit vraiment des gens de tout type et dans toutes sortes d'endroits. Mais c'est vrai qu'une large part de notre activité, plutôt type animation, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, se fait dans les écoles. Je pense plus de 100 000, probablement plutôt proche de 150 000.
Par an.
Voilà, par an. Et le plus gros bataillon des personnes qu'on voit, c'est les collégiens.
D'accord.
Un peu des plus petits et un peu des plus grands.
Et ça, c'est dans le cadre de la loi, puisque en France, il y a 3 séances d'éducation à la sexualité qui sont obligatoires par an tout au long de la scolarité d'un enfant. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on vous demande d'intervenir à l'école ou est-ce que c'est plutôt en complément de ce qu'aurait pu dire un prof de bio, par exemple ?
Il y a plusieurs moyens, je pense, pour les personnels de l'éducation nationale de se conformer à cette loi. Il y a évidemment d'abord des personnels en interne qui sont formés à ces questions-là.
Donc des profs ?
Voilà, des profs de SVT qui vont élargir la focale de la biologie pour aller plus sur des questions de sexualité dans leurs cours, dans le cadre de leur programme. Les infirmières de l'éducation nationale qui font aussi un gros travail de ce côté-là. Et les associations. Le planning familial était probablement celle qui en fait le plus en France, mais il y en a pas mal d'autres qui traitent aussi des sujets connexes ou les mêmes que nous.
D'accord.
Oui, donc on fait ça dans le cadre de la loi, mais malheureusement, cette loi est vraiment très peu respectée. Il nous arrive encore régulièrement de voir des jeunes qui n'ont jamais eu ce type d'intervention. Alors de l'extérieur, peut-être que pour l'établissement qu'elle fréquentait, le cours de bio avait suffi, mais enfin, vraiment pas de moment réellement pour parler de contraception, de sexualité, pour pouvoir poser des questions.
C'est lié à quoi ça, d'après toi ? Est-ce que c'est une sorte de tabou ? Est-ce que c'est une incompétence, enfin une difficulté à se dire qu'on est légitime pour parler de ça en tant qu'adulte dans le cadre de l'école ? Ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des gens qui considèrent que c'est trop tôt, que c'est pas adéquat de parler à des enfants de sexualité, à des adolescents de sexualité ?
Je pense qu'il y a un peu de tout. Évidemment, on ne peut pas écarter l'idée qu'il y a une forme de frilosité à parler de ces sujets-là aux jeunes. On l'a vu, il y a des personnes qui sont vraiment opposées au fait qu'on aborde les questions de sexualité dans l'école et elles sont très minoritaires, mais elles peuvent peut-être représenter un frein pour certaines personnes qui n'ont pas envie de les voir.
Et pourtant, il y a des études qui montrent que ça diminue les risques, au contraire, de parler de ces sujets-là très tôt, même dès le primaire. Et on se rend compte que dans les pays, justement, où il y aurait au contraire une limitation de l'évocation de la sexualité ou une limitation tout simplement du passage à l'acte, et notamment chez les jeunes filles, de reculer cet âge-là, crée d'autant plus d'accidents, de grossesses, de comportements violents, etc. Donc ça, c'est quand même pourtant une donnée qu'on a,
ouais,
et qui est assez claire.
Après, moi, je ne jette pas la pierre aux gens que ça inquiète ou que ça préoccupe. Je pense que nous, ce qu'on constate, c'est que, genre, au-delà d'une certaine frilosité sur le sujet, éventuellement de personnes que ça embêterait, il y a aussi des obstacles organisationnels. C'est-à-dire que les programmes scolaires sont très chargés. Mm-hmm. Il faut dégager du temps sur les programmes scolaires et nous, on le vit chaque fois qu'on y va. En fait, bon, le prof, il n'a pas envie de donner une heure de son cours parce que tu comprends, il est déjà en retard sur sa matière. Mm-hmm. Il peut y avoir des contraintes financière, il peut y avoir des contraintes de salle, il peut y avoir toutes sortes de contraintes, on s'imagine très bien. Tout ça pour dire que les raisons ne sont pas nécessairement mauvaises. La question, c'est la question de faire appliquer cette loi et comment on s'y prend. Nous, ce qu'on constate, c'est que quand on nous appelle, en général, il y a un peu le moment de nécessité. Ah. Le moment de la nécessité, c'est quand voilà, on constate qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans les relations entre les garçons et les filles à un certain moment. On ne sait pas. Voilà. Il y a des jeux qui sont un peu à caractère sexuel dans la cour d'école et on ne sait pas trop comment les aborder. Il y a une rumeur qui circule qu'il y aurait eu une agression. La sexualité des filles stresse pas mal les adultes. Donc quand les filles commencent à en user. Déjà, juste avoir un corps de femme, en fait, ça les, voilà, ça inquiète beaucoup.
La manière dont elles s'habillent,
etc. Et donc, nous, c'est ce qu'on appelle quand on nous appelle pour intervenir en pompier. Il y a un problème et on nous appelle pour ça. En général, c'est assez désagréable d'intervenir comme ça parce qu'on arrive dans une situation chargée où il y a évidemment beaucoup de non-dits. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Et j'imagine que vous préférez intervenir dans un cadre de prévention, d'éducation en amont, plutôt que d'attendre un moment de crise.
Oui, tout à fait. Ce qui arrive, c'est que quand on intervient plusieurs fois, comme la loi le prévoit, les questions évoluent. On crée un rapport de confiance. Mm-hmm. Et puis ensuite, les personnes, elles peuvent rentrer chez elles et puis se dire « Alors, j'ai bien vu que les animatrices avaient l'air sympas, qu'on les a testées, on leur envoyait quelques scuds pour voir comment elles réagiraient. » Et la fois suivante, on obtient d'autres paroles aussi de la part des jeunes. Dans l'idéal, on n'interviendrait que comme ça, en fait. Le fait de venir plusieurs fois, ça permet aussi d'inscrire ça dans une relation avec l'établissement. Mmh. Dans un partenariat, plusieurs fois, etc. Mmh. Or, en fait, pour plein de raisons, ça ne se passe pas assez souvent comme ça. Alors, évidemment que c'est un problème parce que nous, on est complètement convaincus que cette loi, elle pose des bases superbes. Les jeunes devraient pouvoir avoir cette possibilité de parler. Quand je parle d'éducation à la sexualité, j'aime bien l'allonger en disant vie affective, relationnelle et sexuelle parce que je pense que si je vous dis que l'éducation à la sexualité est obligatoire en maternelle, vous allez me dire « mais de quoi vous parlez avec mon enfant ?» Alors que quand on parle vie affective, relationnelle et sexuelle, on voit bien que le spectre est beaucoup plus large. On n'a pas les mêmes discours, on ne parle pas des mêmes choses avec les tout-petits qu'on parle avec les grands, etc. Mais c'est super utile d'avoir ce dialogue-là, à la fois avec les jeunes, mais aussi avec leurs établissements. Ça amène des très jolies choses et j'ai encore des souvenirs très forts d'interventions que j'ai pu faire dans des établissements comme ça, où je suis retournée plusieurs fois, où ça a permis de changer un peu le rapport de force entre les filles et les garçons, entre les étudiantes et les étudiants et le lycée, en tout cas la façon dont les personnes se positionnaient. Et d'ailleurs, une de ces expériences qui était très jolie, qui était dans un lycée, où pour le coup, ce n'est pas l'équipe éducative qui m'a demandé de venir, c'est les lycéennes. A donné lieu à plusieurs séances comme ça, en non-mixité, puis en mixité. Et j'ai répondu ce week-end, désolée Sophia, j'ai eu un peu de retard, à un mail d'une de ces lycéennes qui à présent doit être à la fac, j'imagine. Je pense qu'elle me parlait de son master. Voilà, on s'est marqués les unes les autres.
Mais c'est vrai qu'il y a des moments très jolis. J'ai écouté sur le podcast du Planning. Le Planning a fait un podcast récemment, que je mettrai d'ailleurs dans les ressources parce qu'il est vraiment intéressant, où il y a une captation audio d'un moment en primaire, en CM1, CM2, où des petits prennent la parole, s'expriment, apprennent à exprimer leurs émotions, à exprimer ce qu'ils ont vécu, leurs ressentis. Et ça ne parle pas du tout de sexualité, mais plutôt de rapport entre les garçons et les filles, ou entre les filles ou entre les garçons. Mmh. Et où chacun, dans un cadre bien précis, est amené à s'exprimer ou à écouter l'autre. Et ça, c'est super parce que notamment les garçons sont amenés à écouter les filles sont amenées à s'exprimer de manière libre et encadrée. Et ça peut paraître un peu basique, on va dire, exprimer comme ça, mais je pense que pour ceux que ça intéresse, ça vaut vraiment le coup d'aller écouter parce qu'on sent, on comprend très rapidement ce que ça peut apporter et à quel point ça peut justement marquer ensuite les élèves arrivés au collège ou au lycée, donc les années où on va commencer à embrasser ou avoir des relations sexuelles, dans leur relation à l'autre. Et je comprends complètement ce que tu dis dans le fait de vouloir justement intervenir à plusieurs reprises, parce que c'est quelque chose qui clairement se construit. Et d'ailleurs, une de vos activités, c'est aussi de former les profs, de former les enseignants, pour que, indépendamment de vos interventions ponctuelles, puissent continuer à proposer ces activités, en fait, oui, d'échange, de respect de la parole de l'autre, etc.
Oui, c'est une des grandes forces de ce programme, qui est le programme PRODAS, celui dont tu parles.
Oui.
Et c'est de proposer un package complet qui implique la formation des enseignants, une intervention sur une année et un format qui permet de répéter dans le futur sans qu'on soit là.
Eh oui. Mmh. Oui, parce que c'est comme la pensée critique, c'est comme la métacognition, c'est des choses qui doivent se pratiquer. Et un élève, bien sûr qu'on peut lui apporter des connaissances en une heure et on peut peut-être introduire une notion de questionnement, de doute, d'intérêt pour l'autre, mais ce qui est important, c'est de pratiquer régulièrement et que ça entre dans un mode de communication, en fait, dans un mode d'interaction avec l'autre. Ouais. Parce que finalement, la sexualité, qu'est-ce que c'est ? Au bout du compte, c'est une interaction, c'est une communication avec l'autre. Et le présenter comme juste une activité factuelle, ça pose question et ça pose problème, surtout, assez rapidement.
Ouais.
Avec toutes les notions de pouvoir et de rôle genré, etc. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est qu'il ne faut pas éclipser le fait qu'un enfant, il a une sexualité qui lui est propre, qui lui est personnelle, dès le plus jeune âge. Et finalement, on a tendance à aussi sous-estimer cet aspect-là et avoir un cadre d'expression potentielle de ses questions, de son vécu, de manière encadrée par des gens qui sont formés, c'est hyper intéressant, hyper important. Et puis, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça fait aussi sortir de cette stigmatisation de la jeunesse qui ne saurait rien, qui serait incapable de juger par elle-même de ce qui doit l'intéresser ou de ce qu'elle doit faire et à quel moment, par des adultes qui, eux, auraient une sexualité maîtrisée sans aucun accroc, comme on le sait, et qui ne fait jamais d'erreur. Et ça, je trouve ça génial. Ça rejoint aussi ce que tu dis sur le fait qu'au planning, ben, l'idée, c'est l'échange. C'est pas juste de dire « moi, je sais et je t'explique et je suis le sachant et toi, tu vas apprendre de moi ». Et donc, finalement, dès l'enfance, ensuite à l'adolescence et puis au lycée, bah, c'est toute une continuité, en fait, qui est intéressante de mettre en place.
Ouais. Et puis, il y a des façons très simples, en fait, de faire passer les questions de prévention des violences sexuelles auprès des tout-petits. Ils comprennent très vite, ils comprennent très bien. Il y a ce vieux programme que j'affectionne beaucoup, parce que je le maîtrise, il y en a d'autres, hein, mais qui est un programme canadien qui s'appelle « Mon corps, c'est mon corps ». Et en fait, « Mon corps, c'est mon corps » explique le consentement par le brossage de cheveux. Qu'on peut avoir envie de se laisser coiffer par une copine, et puis qu'ensuite, on peut changer d'idée. Et que quand on dit non, ben c'est non. Et en fait, ça amène tout un champ de discussion avec les petits qui est super chouette.
C'est le moment de mettre un pouce, un cœur ou une myriade d'étoiles sur votre appli de podcast. Le meilleur signal qui soit pour que l'algorithme propose à d'autres ce podcast humble et superbe. Quelles questions soulève cette série ? Quelles réalisations avez-vous faites sur votre sexualité au cours des dernières semaines ou des dernières années ? Je serai heureuse de vous lire en commentaire, donc n'hésitez pas à rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube ou Peertube. Un grand, grand merci à celles et ceux qui ont fait un don pour que Méta de Choc continue de nourrir vos cerveaux affamés. Si vous aussi, vous voulez soutenir cette initiative indépendante, gratuite et sans publicité, suivez le lien en description. C'est grâce à vous tous et toutes qu'elle peut exister. Que nous réserve le quatrième volet de cette série ? Vous le découvrirez vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.